Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Cette biographie de Josephine Baker par Jacques Pessis, publiée dans la collection Folio Biographie, propose de dépasser l'image réductrice de la danseuse à la ceinture de banane. Elle retrace le parcours de l'artiste américaine, devenue une figure majeure de la scène parisienne, de la culture populaire française et des combats du XXe siècle. Le livre suit une existence marquée par l'ascension spectaculaire dans les années folles, l'engagement au service de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, la lutte contre le racisme et le projet familial des Miland. Pessis privilégie un récit chronologique, vivant et accessible, proche par moments de la biographie journalistique. Son objectif principal est de mettre en lumière une Josephine Baker engagée, généreuse et contradictoire, sans la dissocier de son rapport constant au spectacle. L'ouvrage présente ainsi la célébrité non comme une fin, mais comme le moyen dont Baker est servi pour agir publiquement, défendre des idéaux et construire un destin hors norme. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, de la revue nègre à la fabrication d'une icône parisienne, le livre accorde une place centrale à la transformation de Josephine Baker en phénomène artistique dans le Paris des années folles. Son apparition dans la revue nègre au Théâtre des Champs-Élysées en 1925 et les images associées à ses danses constituent le socle de sa notoriété. Pessis rappelle toutefois que cette célébrité repose sur une ambiguïté historique. Baker apporte au public parisien une énergie scénique nouvelle, liée au jazz, au charleston et aux circulations culturelles noires entre les États-Unis et l'Europe. Mais son succès est aussi conditionné par un imaginaire colonial et exotisant, qui enferme volontiers l'artiste dans une représentation de sauvagerie fabriquée par son époque. L'intérêt de la biographie est de ne pas réduire cette phase à une simple anecdote visuelle. Elle montre comment Baker tire parti de la scène, de son corps, de son humour et de son sens du spectacle pour acquérir une autonomie rare. La vedette devient progressivement chanteuse, interprète et personnalité publique. Cette trajectoire souligne aussi le contraste entre la reconnaissance française et la ségrégation persistante aux États-Unis. La célébrité de Baker apparaît donc comme une conquête réelle, mais gagnée dans un environnement culturel qui projetait sur elle ses propres préjugés. Deuxièmement, la notoriété convertie en engagement pour la France libre. Jacques Pessis présente la période de guerre comme un élément décisif pour comprendre la dimension civique de Josephine Baker. L'artiste ne se contente pas d'apporter son soutien symbolique à la France. Elle participe aux activités de renseignement liées aux forces françaises libres et met à profit sa mobilité, ses relations internationales et le caractère apparemment mondain de ses déplacements. Sa position de vedette lui offre un accès à des milieux où l'information circule tout en la rendant moins immédiatement suspecte qu'un agent ordinaire. Le livre insiste également sur ses actions auprès des soldats et sur son engagement pour la Croix-Rouge. Cette partie évite de traiter Baker seulement comme une icône de musical soudain devenue héroïne nationale. Elle établit plutôt une continuité entre sa capacité à se produire sans relâche et son choix de mobiliser son influence lorsque la France est occupée. L'engagement comporte des risques personnels et affecte une santé déjà fragile. Il éclaire aussi son attachement durable à son pays d'adoption, qui ne relève pas d'un simple calcul de carrière. Dans ce portrait, le patriotisme de Baker est concret, fait de réseaux, de voyages, de prestations et de prises de risques, plutôt que de déclarations abstraites. Troisièmement, le combat antiraciste au-delà de l'image de vedette, la biographie met fortement l'accent sur la lutte de Josephine Baker contre le racisme et les discriminations. Ce choix distingue l'ouvrage d'un récit limité à ses chansons, à ses tournées ou à ses scandales. Pessis montre que l'expérience de la ségrégation américaine nourrit durablement son rapport à la célébrité. La reconnaissance obtenue en France ne lui fait pas oublier que son pays de naissance lui refuse souvent une pleine égalité. Sa visibilité devient alors un outil de protestation et de représentation. Le livre associe ce combat à un idéal plus large de fraternité, qui s'exprime dans ses prises de position publiques et dans sa volonté de faire de sa vie privée une démonstration de coexistence entre origines différentes. Cette orientation donne une cohérence à des épisodes parfois perçus comme dispersés dans une existence très mouvementée. Le militantisme ne vient pas après la carrière comme une activité secondaire, il transforme le sens même de sa notoriété. Le récit souligne cependant la tension entre l'idéal proclamé et les conditions matérielles nécessaires pour le faire vivre. Baker est décrite comme une personnalité généreuse, volontaire et courageuse, mais aussi excessive et difficile à préserver de ses propres élans. Cette complexité empêche de réduire son antiracisme à une posture commémorative. Quatrièmement, les Miland et la tribu arc-en-ciel comme projet social fragile. Le château des Miland occupe dans le livre une fonction qui dépasse celle d'une résidence prestigieuse. Il devient le lieu où Josephine Baker tente de donner une forme concrète à ses convictions. En adoptant 12 enfants d'origines diverses, elle entend démontrer que des personnes de races et de religions différentes peuvent vivre ensemble dans une même famille. La tribu arc-en-ciel relève donc à la fois d'une initiative intime, d'un projet éducatif et d'un geste public contre le racisme. Pessy restitue la force symbolique de cette ambition, tout en suivant le poids des réalités financières qui l'entourent. Entre le coût du domaine, les dépenses, les tournées nécessaires pour maintenir l'ensemble et les difficultés croissantes, les Milandes deviennent un foyer de tension. La volonté de sauver le château finit par organiser une large part de la dernière période de la vie de Baker. Cette dimension est importante parce qu'elle révèle les limites pratiques de l'idéalisme individuel. Une cause juste et une générosité sincère ne suffisent pas à résoudre les contraintes de gestion, de patrimoine et de protection des enfants. Le livre ne fait pas des Milandes un simple échec. Il les présente comme la matérialisation ambitieuse mais vulnérable d'une vision universelle de la famille et de l'égalité. En dernier lieu, un portrait narratif accessible, admiratif mais parfois peu critique, la réception du livre permet de situer précisément sa méthode et ses limites. Plusieurs lecteurs soulignent la fluidité de la narration, son caractère accessible et sa capacité à faire découvrir les multiples vies de Baker en un volume relativement bref. Pessy adopte un style factuel et chronologique, souvent qualifié de journalistique, qui rend la lecture rapide et maintient l'attention sans transformer le texte en succession sèche de dates. Cette approche convient à une première découverte de l'artiste, de ses spectacles, de son rôle dans la résistance et de ses engagements. En revanche, certains commentaires regrettent une tendance à l'idéalisation ou à la dramatisation romanesque. Le portrait peut apparaître plus empathique qu'analytique, notamment lorsqu'il aborde les contradictions de la vie familiale, les difficultés financières ou certaines zones plus intimes de son existence. Des lecteurs notent aussi l'absence de véritable appareil critique, de sources détaillées ou de mise en perspective approfondie sur le Paris colonial, le music-hall et les formes de racisme de l'époque. Ces réserves ne rendent pas l'ouvrage inutile, elles en précisent l'usage. Il faut le lire comme une biographie de vulgarisation portée par une admiration manifeste pour son sujet, non comme une enquête universitaire exhaustive. Sa valeur tient à la synthèse narrative et à la restitution d'une énergie biographique exceptionnelle. En conclusion, cette biographie s'adresse d'abord aux lecteurs qui connaissent Josephine Baker par quelques images célèbres, par une chanson ou par son entrée au Panthéon, et qui souhaitent replacer cette mémoire dans une trajectoire plus complète. Elle conviendra également aux personnes intéressées par les années folles, le musical, la résistance française, les circulations culturelles entre les États-Unis et la France, ainsi que l'histoire des luttes antiracistes. Son bénéfice principal est de relier des facettes souvent séparées de Baker. La danseuse, la vedette de revue, l'agente de renseignement, la militante et la mère adoptive y appartiennent à un même parcours, dominé par le besoin de scène, l'attachement à la France et une volonté d'agir contre l'injustice. Par rapport à des biographies plus savantes, documentées par de nombreuses références et davantage centrées sur les contextes sociaux, le livre de Pessy se distingue par sa brièveté, sa lisibilité et son élan narratif. Il donne une place notable à la générosité et aux engagements de son sujet, en particulier aux Milandes et à la tribu arc-en-ciel. Cette qualité constitue aussi sa limite, car l'admiration de l'auteur peut atténuer certaines contradictions ou laisser des questions ouvertes. Lu avec cette réserve, l'ouvrage offre une introduction solide et incarnée à une figure dont la célébrité ne résume ni le courage, ni les fragilités, ni l'importance historique. Si vous souhaitez soutenir Jacques Pessy, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.